France Musique.
Merci Lionel Esparza, je vous souhaite un bon week-end et on vous retrouve lundi en direct de l'hôtel Bedford à Paris.
This is a electronic instrument that I have.
Tout ce qu'elles ont entraîné dans l'histoire de la musique.
Moi, j'ai besoin de créer.
Tapage nocturne.
Moi, j'ai trahi la musique respectable et la musique concrète.
Bruno Le Thor.
Et le violoncelle de mon enfance. Pour le magnétophone.
France Musique.
Et pour le potentiel.
Nous recevrons dans ce tapage nocturne Clem Pareil, duo formé de Madame Patate et Christophe Petchanatz, qui cultive avec passion un certain minimalisme. Mais je vous propose d'ouvrir cette émission avec un avis de naissance, celui d'un nouveau label discographique, baptisé joliment Merci pour les sons. Derrière ce label se cache un musicien, figure emblématique de la percussion au service de la création, Florent Jodelet. Il est venu à notre micro pour nous parler de cette naissance et de ce premier opus discographique consacré au compositeur Jean-Marc Singier. Laurent Jodelet, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vient de paraître un opus discographique consacré à Jean-Marc Singier. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la jeunesse de ce projet ?
C'est un premier opus d'un label que je viens de créer.
Quel est le nom de ce label ?
Merci pour les sons. Merci pour les sons, c'était une dédicace que m'a faite John Cage lors d'un des tout premiers concerts de...
Oui, il a été le parrain de l'un de vos premiers concerts.
Absolument, c'était ça. J'étais vraiment encore étudiant, enfin jeune, vraiment très jeune étudiant, et c'était aux Rencontres Musicales d'Orléans. Et il était là, c'était un festival qui lui était consacré, et j'ai joué un des deux pièces de lui. Et il avait été charmant, attentif, bienveillant, et ça avait fini par une dédicace de programme qui m'est restée. Et au moment d'essayer de trouver un nom pour ce label, la dédicace est revenue en mémoire et j'ai choisi. Pour une collection, l'idée de remercier à la fois les auteurs, les compositeurs, les interprètes qui participent, et que ça soit un cadeau pour le public et pour la communauté des mélomanes qui va s'y intéresser. Un beau départ.
Parlez-nous un peu de ce programme de Jean-Marc Singier.
Alors, ce programme rassemble deux enregistrements, en fait, qui ont été faits dans la décennie 2010 pour deux projets discographiques différents qui, par coïncidence, ont tous les deux échoué. On s'est retrouvé avec Jean-Marc, qui est un ami proche et qui était un petit peu désespéré à l'idée de voir toutes ces heures d'enregistrement qui ne trouvaient pas de débouchés. On s'est dit, allez, on y va et on lance ce projet qui faisait écho à mon désir de lancer une activité discographique. Il y avait un programme enregistré par l'ensemble Fa, auquel j'avais l'honneur de participer en tant qu'instrumentiste, qui avait été enregistré ici même à Radio France dans les années 2000, au tout début, au Studio 103, qui existait encore à l'époque. Dominique Mie et les musiciens de l'ensemble étaient très familiers de la musique de Jean-Marc et ils avaient beaucoup, beaucoup collaboré. On sentait vraiment l'ensemble des musiciens qui nageaient comme des poissons dans l'eau avec cette musique qui est très difficile à jouer, à monter parce qu'il y a énormément de petits événements qui s'imbriquent, qui se répondent. Synchronisation, fausse synchronisation et toujours avec un esprit ludique et un humour qui plane au-dessus de tout ça. C'est une musique qui semble simple et qui est faite pour être appréciée d'une façon tout à fait joviale, j'allais dire, dès la première écoute, mais assez compliquée à réaliser. Donc, je me souviens de ces séances d'enregistrement avec beaucoup de plaisir et beaucoup d'affection. Thank you. Deuxième partie de ce disque, c'était un enregistrement qu'on avait fait avec Marie-Joseph Jude, une pièce qui m'avait été dédiée en partie avec un autre commanditaire qui était Laurent Cugnot. Et donc là, on avait fait la création de la pièce dans un festival et on avait enregistré dans la foulée. Et puis, voilà, c'est l'univers des disques, des labels discographiques étant ce qu'il est, le projet n'a pas abouti pour des raisons souvent budgétaires, mais pas seulement, souvent éditoriales, où les labels n'arrivent pas à trop identifier un projet et savoir comment il allait se positionner par rapport au reste du catalogue, ce genre de considérations. Et donc, nous étions tout à fait satisfaits de l'enregistrement, donc c'était le moment de le rendre accessible à tout le monde.
Les percussions sont certainement les pupitres qui ont le plus évolué à l'orchestre depuis des années, avec un élargissement des instruments, des timbres, des techniques de jeu.
Et absolument. C'est un lieu commun de dire que la percussion est l'instrument du XXe siècle. On n'a pas fini de voir ça parce que après l'instrumentarium qui s'est étoffé de façon drastique, dans toutes les institutions, maintenant on trouve des panoplies d'instruments comme ça. Maintenant il y a une réflexion un petit peu sur l'agencement aussi de tous les instruments. C'est-à-dire que il y a eu un moment où les gongs, par exemple, prenons l'exemple des gongs thaïlandais, qui étaient des instruments singuliers, une note par-ci, une note par-là, étaient disponibles. Puis, on a commencé à se dire, bon, ben, essayons de rationaliser ça, essayons de faire construire des octaves, 3 octaves, 4 octaves de gong, voilà, et avec toutes les notes, essayons d'arriver à maîtriser, côté lutherie, à maîtriser l'intonation pour avoir des vraies notes très précises. Et puis, donc ça y est, l'univers des gongs thaïlandais est maintenant tout à fait balisé, et puis maintenant on se trouve avec d'autres petits gongs qu'on trouve dans une lointaine campagne chinoise ou coréenne ou cambodgienne. Il se dit, mais celui-là aussi, pourquoi pas? On pourrait, il suffirait il y en a un grand, un petit, voilà, il suffit de construire les tailles intermédiaires, on aura aussi une octave, voilà. Et je raconte ça parce que j'étais l'an dernier à Shanghai et j'ai vu un instrument que je connaissais pas du tout, c'était un clavier de petits gongs que je n'avais jamais vu, pour être tout à fait honnête. Et c'était non seulement un instrument, mais 3 octaves. Donc,
vous l'avez ramené à Paris.
Et j'aurais aimé, comme je l'ai fait souvent avec des instruments divers, mais là c'était pas l'occasion. Peut-être la prochaine fois.
Merci beaucoup, en tout cas, Florent Jodelin, d'être venu nous parler de votre parcours, de votre itinéraire et de ce disque qui vient de paraître sur votre label, disque consacré à Jean-Marc Saint-Gilles. Thank you.
Tapage nocturne, Bruno Le Thor, France Musique.
Klim Pareil est né en 1985 sous l'impulsion de Françoise Lefebvre et Christophe Petchanatz. Maître de la naïveté, du bizarre, du lunaire, pionnier de la toy music, pilier discret de l'underground français, Klim Pareil se multiplie en pièces courtes, instrumentales et enfantines depuis plus de 30 ans. Ce duo qui deviendra solo en 2002 se métamorphosera au fil des projets, accueillant des musiciens comme David Fenech, Denis Fragerman ou Madame Patate, et c'est d'ailleurs avec celle-ci qu'il est venu nous rendre visite en notre studio 107 de la maison de Radio France. Klim Pareil sont les invités de cette émission. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous avez fondé Christophe Petchanatz en 1985, Klim Pareil, qui se présentait d'abord comme un duo, avant de devenir un solo et une sorte de collectif.
Exactement, un duo pianistique surtout, avec quelques jouets en accompagnement. Et puis, séparation, divorce, la musique continue. J'étais toujours dans un travail solitaire, plutôt en studio. Et puis j'ai cédé un jour quand même à l'insistance de camarades qui m'incitaient à jouer live. Donc ce que j'ai essayé de faire, sachant que ce que je produis en live ne ressemble pas forcément de très près à ce que je produis à la maison, puisque à la maison c'est vraiment concocté au quart de millimètre, et là au contraire c'est un peu freestyle.
Thank you. était la philosophie du projet à l'origine?
Avant de faire Klemperer, je faisais de l'électropop, synthé, boîte à rythme. Et puis ma compagne n'était pas très intéressée par ce genre de musique-là. Puis j'en avais un peu fait le tour aussi. Elle étant pianiste, elle m'a sollicité en fait pour qu'on essaie de travailler ensemble. Et on était là vraiment dans les tout débuts de Klemperer sur de la composition de pièces pour piano à quatre mains.
Madame Patate, bonjour.
Bonjour.
Comment vous avez intégré ce projet?
Nous nous sommes rencontrés sur Internet et il s'avérait que je jouais à Lyon, qu'il a écouté ma musique et qu'il trouvait ça intéressant ou sympathique. Et donc on a joué sans filet ensemble un concert en Lyon en 2007 ou quelque chose comme ça.
2007, oui.
Voilà, donc vraiment il est venu, il m'a dit « Ok, je viens, j'improvise sur ta musique ». Et depuis, on ne s'est plus vraiment quitté. En tout cas, je suis son prétexte pour revenir sur la scène, finalement. Voilà.
Quel instrument jouez-vous?
Pas grand-chose de manière professionnelle. J'avais fait un peu de piano quand j'étais jeune. Et après, je joue beaucoup d'objets sonores, mais sans aucune prétention d'être vraiment musicienne.
Alors Christophe, vous êtes également lancé dans l'édition à un moment donné.
Oui.
Notamment en publiant la revue Rectangle.
Ouais, c'est vieux ça.
Et les éditions Garenne.
C'est vieux aussi.
C'était quoi cette idée? Pourquoi d'ailleurs une édition?
Parce que je suis aussi dans l'écriture, et puis étant dans l'écriture, je lisais d'autres, et puis je trouvais que d'autres méritaient, entre guillemets, d'être publiés. Voilà, c'était une époque différente, hein, il n'y avait pas d'Internet, ou à peine les prémices, et donc beaucoup de choses se passaient par courrier, par photocopieuse, etc. C'était une belle époque, hein. Voilà, mais bon. Après, on passe à autre chose. L'espèce de ferveur et d'élan qui animait cette époque-là a un petit peu disparu.
Votre démarche musicale repose beaucoup sur le jouet, le jeu presque. Est-ce que pour vous c'est un moyen de redécouvrir l'enfance ou plutôt de reconfectionner une enfance ?
Alors, comme vous avez pu le constater, j'utilise de moins en moins les jouets. Je me repose sur Émilie. J'ouvre une petite parenthèse pour Émilie quand même. Donc Émilie passe son temps à dire qu'elle ne sait pas jouer, qu'elle joue pas bien, etc. Et en même temps, c'est vraiment pour moi un élément, elle est très rassurante. C'est-à-dire qu'en sa présence, je me sens... solide, ce qui n'est pas forcément le cas quand je suis seul. Voilà. J'en reviens sur les jouets. Les jouets, ça a été un moment et j'ai tendance à m'en éloigner pour des tas de raisons. D'abord pour le côté cliché, c'est-à-dire que voilà, Klimper High, on attend les jouets, on attend la musique pittoresque, etc. Et bon, on n'a pas forcément envie de faire ça toute sa vie. Et puis l'autre dimension, c'est que je cherche à voyager léger de plus en plus et donc à ne plus trimballer des caisses de matériel et de petites choses.
Alors on classe parfois dans le rayon des aventuriers sonores. Ça vous plaît cette appellation ?
Ah bah oui, bien sûr.
Vous avez beaucoup enregistré. Et qu'est-ce que ça représente pour vous l'enregistrement ?
Un rêve d'enfance. Je suis né et j'ai grandi dans une famille relativement peu cultivée. Je dis ça sans haine. Mais voilà, donc il n'y avait pas de musique et pas de livres à la maison. Et un jour j'ai découvert la musique par la radio. Et là c'était une révélation. Du rock'n'roll, j'avais jamais entendu ça de ma vie et je me suis dit, voilà, j'avais, je sais pas, 8 ans, 9 ans, je me suis dit, ça je ferai ça un jour. Alors j'ai pas fait exactement la même chose. Et il y avait aussi fortement le fantasme de l'objet physique du disque et notamment du vinyle. Manque de chance, quand j'ai commencé à éditer des choses, c'était sur CD. Coup de bol, le vinyle est revenu et j'ai édité quelques vinyles récemment plutôt. Thank you.
vous êtes montré très longtemps réticent face au concert.
Oui, 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 je le suis toujours en fait. C'est-à-dire que quand on est un petit peu obsessionnel et qu'on a envie de faire des trucs au millimètre, ce que je fais très bien à la maison parce que je peux passer deux jours sur quatre mesures, mais qu'en même temps je suis assez paresseux, je ne travaille pas beaucoup les instruments, j'ai pas une excellente mémoire, tout ça mis bout à bout fait que la prestation live n'est pas du tout du même genre. J'ai tendance à privilégier plutôt l'improvisation, le déséquilibre. Voilà, on a vu, hein, il se passe des choses qui sont pas toujours prévues. Pour moi, c'est vraiment deux dimensions complètement différentes, mais ça me coûte énormément de jouer live. Ça me demande énormément d'énergie. Et je suis pas toujours content de moi, même pas souvent, mais en même temps, aujourd'hui, ça paraît plus facile pour diffuser sa musique que, enfin, pas plus facile, nécessaire même, de jouer en public parce que les gens n'achètent plus de disques, enfin, ça s'est complètement dématérialisé. Et que voilà, il y a une partie de ce qui était mon panthéon, je dirais, musical et sonore, qui n'existe plus vraiment.
Vous avez eu également une carrière japonaise ?
Oui, carrière japonaise avec Madame. Et on y retourne cette année en novembre. Et voilà, c'était de la folie.
Comment vous expliquez cette reconnaissance japonaise ?
C'est une vieille histoire, mais c'est une affaire de réseau. C'est-à-dire que le premier CD de Klimperei a été produit chez le label Aya, qui lui-même a été distribué au Japon par Locus Solus, qui a fait un gros boulot de promotion, mais qu'on ignorait. J'avais été sollicité dans les années 2000 par les gens du label Nouvelle C'est le Poème, qui a publié plusieurs disques de Klimperei pour venir au Japon. À l'époque, je me sentais absolument pas prêt et ma compagne Françoise n'avait pas envie. Bon. Donc ça a été remis. Et puis 2014, je crois, nouvelle proposition. Et puis ben là, je suis bien embêté parce que j'ai quand même envie, mais ben, pas tout seul. Et donc je demande à Madame,
qui était ravie,
qui était plus que ravie, et voilà, ça s'est vraiment bien passé, c'était très chouette, le public était excellent, et c'était une belle petite aventure, comme on dit.
Je ne vais pas vous écouter. Je ne vais pas vous écouter, vous m'entendez. Ça vous dérange. Je n'y peux rien. Je veux vous dire une petite chose avant que vous partiez. Je n'ai pas peur de vos pensées, de vos pensées.
Page nocturne, Bruno Le Thor, France Musique. Thank you.
Parlez-nous un peu de la session d'aujourd'hui que vous avez réalisée ici au Studio 107.
Alors aujourd'hui, c'est un mélange de morceaux de Madame Patate et de moi-même. C'est des morceaux qui sont retaillés pour être joués live et pour être assez minimaux. J'ai tendance à aller de plus en plus vers le moins. C'est des morceaux qu'il y a, pour certains morceaux, on les triture depuis des années. On les joue jamais de la même façon. Puis il y a des nouveautés. Chacun travaille dans son coin, on s'envoie des trucs. On tape un peu dans le répertoire aussi, qui est le mien.
De l'un et de l'autre.
Voilà, moi, j'ai des centaines de morceaux qui sont... autant de temps en temps les jouer. Quoi.
En tout cas, merci beaucoup d'être venu dans cette émission.
Merci.
Merci
pour l'invitation.
Je vous dis à bientôt.
Qui sait.
Thank you.
Ainsi s'achève ce tapage nocturne. À la technique étaient Romain Lenoir, Valérie Lavalard et Pierre Henry. Attaché de production, l'incontournable Soizic Noël. Réalisateur, Bruno Riou-Maillard. Et il est l'heure maintenant de retrouver Anne Montaron et sa création mondiale.
À réécouter sur francemusique.fr.